on avait parlé d'ailleurs la dernière fois, du déni du danger qui existe. Si je fais une comparaison avec l'histoire contemporaine, c'est 1938 à Munich, on s'est dit, ça y est, on a gagné la paix. Et on a vu un an plus tard ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe, justement, c'est ce refus de voir les choses. Si bien que, si je commençais, le chapitre 19 reprend toujours ces termes, avec l'idée que Dieu dit, eh bien, je brise ce peuple infidèle, avec cette image, justement, du problème de quel est le rôle, quelle est l'intervention divine dans cela, quel est le rôle de Dieu dans tout cela. Mais l'intérêt justement chapitre 20, c'est de voir concrètement la conséquence de la prédication de Jérémie. C'est que les autorités du temple, eh bien, font arrêter Jérémie et vont le clouer et le clouer au pilori. Et alors c'est très intéressant parce que j'ai un mot hébreu qui désigne donc le pilori. Je me suis empressée de regarder parce que en hébreu c'est toujours, ça commence toujours de manière extrêmement concrète. Et le pilori, c'est quelque chose qui tourne autour. C'est-à-dire que on l'expose en public, comme au Moyen Âge, cloué au pilori, c'est-à-dire voué à la vengeance publique, c'est cela. Et on l'expose, et il y a le recteur dont on nous dit le prêtre, fils dont on nous donne les coordonnées. Donc il est, vous voyez, il y a un début très précis. Le prêtre Pachour, fils de Immer, recteur de la maison du Seigneur. Autrement dit, c'est le curé de la paroisse. Bon, entend dit Jérémie prophétisant tout cela. Alors, il a entendu le discours de Jérémie, eh bien, il le fait arrêter. C'est un opposant politique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire toutes les transpositions que vous voulez avec ce qui se passe aussi de nos jours. Moi, j'aime bien faire le rapport avec l'actualité. J'ai vu qu'il y avait eu un candidat qui se présentait contre Poutine, et puis on lui a fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu et qu'on le mettait dehors. Eh bien, vous voyez la même chose. Et ici, on le fait attacher au pilori, et on nous donne des précisions de la porte supérieure de Benjamin, une des portes du temple du Seigneur, avec une indication précise, une indication géographique précise. Alors, ce temple, c'est ce qu'on appelle le premier temple, c'est-à-dire le temple qui a été construit par Salomon. Vous savez que David avait l'ambition de construire un temple, et puis le prophète Nathan lui a dit ben non, c'était pas cela ce qu'il fallait faire, et c'est Salomon qui a inauguré le temple, et ça a été d'ailleurs assez catastrophique parce que ça a été le début de la décadence, de la fin du règne de Salomon, qui va aboutir à une catastrophe, c'est-à-dire au schisme. À la fin du règne de Salomon, il va y avoir des candidats qui vont se disputer. Vous voyez comme l'actualité est tout à fait réelle dans l'histoire d'Israël, et qui vont se diviser en deux royaumes, le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale et le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. Et par conséquent, ici, il s'agit donc du temple de Jérusalem, et vous voyez qu'il est cloué au pilori toute une journée. Une journée sans boire ni manger, et c'est intéressant de voir justement en quoi ce détail nous fait aussi préfigurer le Christ. Alors, donc le lendemain, comme Pachour venait le détacher du pilori, Jérémie lui dit: le Seigneur ne t'appelle plus Pachour, mais épouvante partout. Ainsi parle le Seigneur, je vais faire de toi un épouvantail, et tu vas voir ce qui va se passer, c'est-à-dire je livre les hommes de Juda au pouvoir du roi de Babylone. Et tout ce récit, à partir du verset 4, « Désormais je vais faire de toi un épouvantail, ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis, tu en seras témoin. » Je livre les hommes de Juda au pouvoir du roi de Babylone. Il les déportera à Babylone. Il les frappera par l'épée. Toutes les réserves de cette ville, tout le fruit de son labeur, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors, je les livre à les ennemis. Ils les pilleront, les ramasseront et les emmèneront à Babylone. Et toi, avec tous ceux qui sont avec toi, tu partiras en captivité. Et c'est là que tu seras enseveli parce que tu as prophétisé au nom du mensonge, non pas au nom de la fausseté. Le terme qui est employé, c'est le terme mensonge. Alors, il se trouve que il y a ici une chose qui est très intéressante, c'est qu'on se rend compte que ce récit-là, tel qu'il est raconté, a été écrit au retour d'exil. C'est-à-dire que nous avons là un texte dont on nous présente qu'il fait partie des paroles de Jérémie, mais dont il faut savoir que dans la composition qui nous est transmise du livre de Jérémie, il y a eu des moments de réécriture, c'est-à-dire de réexamen des faits pour pouvoir les expliquer et pour pouvoir en faire comme un résumé. En fait, la transmission du livre de Jérémie, c'est une espèce de catéchèse pour essayer d'apprendre ou d'avancer dans la voie de la révélation. Et par conséquent, ici, nous avons un exemple de reconstitution a posteriori de la mémoire des événements qui ont eu lieu et qui sont racontés sous forme de prophétie de ce qui va se passer. Je crois qu'en cinéma, je crois qu'on appellerait ça un flashback, hein, un retour en arrière. Bon. Mais qui vient ici et qui vient ici pour introduire surtout la deuxième partie du chapitre 20, qui est la dernière des confessions de Jérémie. Alors, je reprends l'histoire des confessions. Le confesser, c'est dire sa foi. Confession au sens de profession de foi. La profession de foi de Jérémie et la particularité, nous avons cinq confessions de Jérémie dans lesquelles, et c'est son originalité, il va livrer le fond de sa pensée. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, pas seulement annoncer la parole de Dieu, mais c'est dire aussi ce qu'il pense. Et par conséquent, nous allons avoir, et nous allons voir dans ce texte justement aujourd'hui, des cris très violents de blasphème. Mais pour avoir une vision d'ensemble, il faut reprendre un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à Jérémie, l'ensemble des confessions. Et je vous rappelle que nous avons la première au chapitre 11 où Jérémie est persécuté par ses voisins qui disent « Entendons-nous entre nous, faisons-le tomber » et en parlant à propos de Jérémie, « Détruisons l'arbre en pleine sève ». Et vous voyez cette image. On s'était arrêté la semaine dernière sur l'image de l'arbre florissant qui donne du fruit. Eh bien, vous voyez, le prophète est celui qui donne du fruit. Détruisons l'arbre en pleine sève. Alors, c'est très intéressant pour nous, cette image de l'arbre en pleine sève, parce que ça nous rappelle que dans les premiers siècles, la croix sera toujours représentée en couleur, en vert, parce que l'arbre, la croix est un arbre vivant qui vit de la vie du Christ, qui est qu'on appelle aussi le bois d'amour, et qui est comme un arbre, un vrai arbre, avec une sève qui circule à l'intérieur. Donc, allons mettre au point notre projet pour détruire l'arbre en pleine sève, qui est Jérémie. Ça, c'était au chapitre 11. Au chapitre 15, nous avions la révolte de Jérémie qui dit à Dieu « Tu m'avais promis que je pourrais annoncer ta parole. Or, tout le monde est contre moi. » Et par conséquent, il pose les questions « Pourquoi suis-je venu au monde ?» Et nous voyons qu'au bout de cette prière, eh bien, il a le sentiment d'être confirmé par Dieu dans sa vocation, et par conséquent, on retrouve les mots de la vocation de Jérémie, c'est-à-dire du chapitre 1, « Ta bouche sera la mienne ». Autrement dit, Dieu fait confiance à Jérémie, et ça, je trouve ça absolument magnifique, parce que ça nous réconforte les uns les autres. Quelles que soient les bêtises que nous disons, Dieu accepte de nous confier sa parole, malgré toutes les dérapages et toutes les bêtises que nous allons dire, et toutes les transformations de sa parole que nous ferons. Ça fait drôlement réfléchir aussi sur le problème de la transmission. Et du coup, Dieu le confirme et lui dit, eh bien, ta bouche sera la mienne. Au chapitre 17, nous avions vu justement, Jérémie toujours dit à Dieu, guéris-moi. Cette idée de « je n'arrive pas », ce qu'on reverra aussi avec saint Paul, « je n'arrive pas à faire le bien que je veux, guéris-moi, si c'est toi qui me guéris, alors je pourrais y arriver. » De la même manière dans le psaume « Miserere », « si c'est toi qui me lave, alors je serai blanc plus que neige. » Si c'est toi Seigneur qui intervient dans ma vie. Et ce qui est intéressant dans le chapitre 17, c'est que dans sa confession, dans sa prière, si vous voulez, dans confession au terme de réciter le credo après l'évangile, c'est absolument dans son acte de foi. Eh bien, dans son acte de foi, il faut tenir compte du fait qu'il dit « fais venir sur eux le malheur ». C'est-à-dire sur les ennemis qui nous font tant de mal, sur les ennemis, et vous voyez qu'il y a cette idée de vengeance qui fait partie de sa prière. Alors nous, on a tout de suite, on pousse des cris d'orfraie en disant « c'est pas bien », mais justement, c'est ça l'intérêt du texte, c'est nous montrer, nous faire toucher du doigt la réalité humaine. Et au chapitre 18 aussi, on recommence la persécution contre Jérémie. Allons mettre au point nos projets contre Jérémie. On trouvera toujours des directives chez les prêtres, des conseils chez les sages, la parole chez les prophètes. Allons le démolir et diffamons ses paroles et transformons ses paroles. Vous voyez que là, on a comme en avant-goût ce qui va se passer pour Jésus au moment de son procès. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à ce verset 7. « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. » Telle est la traduction de la Tobe. Je pense que dans la Bible de Jérusalem, c'est pratiquement la même chose. Alors, problème, c'est que la réalité, elle est beaucoup plus, la réalité dans le texte hébreu est beaucoup plus violente. Est beaucoup plus violente parce que le texte hébreu est cru. Et par conséquent, si on veut restituer la force de l'image, c'est une image qui est très osée, qui évidemment nous surprend, parce que nous on est habitué à un vocabulaire extrêmement lénifiant. C'est le verbe en hébreu signifie « ouvrir », et dans un deuxième sens, il peut signifier « séduire » au sens de relation amoureuse, et en troisième position, il peut signifier « violer ». Et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on est dans une relation personnelle dans laquelle et le mot est répété, tu as abusé de ma naïveté, j'ai été bien naïf, de telle manière que ces répétitions, ces allitérations en hébreu font que le mot que l'on entend, c'est justement, d'une certaine manière, tu as violé ma conscience. Et un peu plus loin, nous verrons, tu as percé mes reins et mon cœur. C'est-à-dire que tu es venu à bout de tout ce qu'il y avait de plus secret en moi. Et par conséquent, vous voyez que c'est en cela que l'hébreu est une langue très charnelle. on n'est pas dans des sentiments de comment dirais-je, de construction métaphysique, de raisonnement. On est dans un rapport de force. Et dans un rapport de force dans lequel Jérémie ose dire à Dieu, eh bien, la relation avec toi est une relation, est comme une relation charnelle, puisque tu as ouvert, tu m'as séduit, et nous avons cela, nous avons ce verbe-là dans Osée, au chapitre 2, au verset 16, où c'est Dieu qui dit « Je vais la séduire, je vais l'emmener au désert pour pouvoir parler à son cœur ». Et nous avons cette image avec, vous voyez, des mots très forts, « Tu as eu recours à la force ». Donc nous avons l'idée du viol et l'idée de la force. Et vous voyez que les mots se renforcent les uns les autres. Et ensuite, à longueur de journée, tu m'exposes et tout le monde se moque de moi. Et nous avons ce verbe « se moquer » qui, chaque fois que j'ai à dire la parole, c'est-à-dire à transmettre cette parole que Dieu a mise dans ma bouche, eh bien, je dois appeler à l'aide parce que je n'ai pas la force de le faire tout seul, et je dois clamer violence, répression, et nous avons le mot violence qui en hébreu se dit Hamas. Hamas. Voilà, vous avez le mot qui est écrit directement comme cela. Et là, nous avons la violence. Et à côté de violence, ce n'est pas le mot répression, c'est un mot qui est beaucoup plus fort. C'est un mot de la dévastation. Il ne restera plus rien. Et comme vous le voyez, auparavant, justement, il ne restera plus rien. Et cela avait été justement dit auparavant, toutes les réserves de cette ville, toutes les belles choses, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda, je les livre à leurs ennemis, ils les pilleront, ils les ramasseront, et ils emmèneront les trésors à Babylone. Ça me fait penser, vous savez, quand on va à Rome, j'espère qu'on ira un jour ensemble, quand même. Bon, ça fait partie des jeux comme ça. Sur l'arc de Titus, au forum, vous vous souvenez qu'il y a, on voit un prisonnier, puisque Titus s'est emparé de Jérusalem, et qui porte sur son dos le chandelier à sept branches. Bon, donc ça fait partie des mœurs de l'époque, hein, quand on a envahi une ville, ben on s'empare de ses trésors. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la dernière guerre, où on a retrouvé ensuite des tableaux du musée du Louvre qui étaient partis ailleurs. Donc vous voyez que nous avons donc cette réalité, et surtout cette image de la dérision. Et ça nous renvoie, parce qu'on voit bien, il y a des connotations de vocabulaire avec le psaume 44 qui dit ceci, « Autrefois, tu sortais avec nos armées et nous étions victorieux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Est-ce que par hasard tu dormirais? Et maintenant, nous sommes devenus la risée de tous nos adversaires. Comment est-ce que nous pouvons prétendre que nous connaissons le Dieu unique et vrai, alors que ce Dieu unique et vrai ne nous protège pas, et que nous partons en déportation sous la risée de toutes les nations qui se moquent de nous? Et nous avons ce côté justement de dérision et de moquerie. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important de voir que c'est exactement ce qui se passera au moment de la passion. Mon ennemi dira, je l'ai vaincu, les adversaires jouissent de ma chute, dans un autre psaume. Et par conséquent, cette idée que les ennemis vont jouir de ce cortège de prisonniers qui vont partir en exil. Et nous avons aussi cette même image au moment du récit de la Passion, quand ça faisait partie du châtiment de la crucifixion, c'est que les gens puissent jouir de la souffrance des autres. Alors c'est drôlement intéressant parce que je me tourne vers le docteur Bertrand Collin sur cette réalité. Jouir de la souffrance, est-ce possible? Jouir de la souffrance des autres.
Les tricoteuses pendant la Révolution.
On en parle aussi dans les Confessions de Saint-Augustin, je veux dire.
Oui, alors tiens, à propos les Confessions, justement, les exégètes qui ont mis à jour, c'est parce que ce qu'on a appelé les Confessions de Jérémie l'ont fait par rapport à Saint-Augustin. En prenant modèle sur Saint-Augustin avec les Confessions de Saint-Augustin, donc ils ont décortiqué ces premiers chapitres dont je vous ai parlé, et du coup, ils ont baptisé cela Confessions de Jérémie.
J'aime bien quand tu poses une question parce que la réponse est dans la question. Tu donnes la réponse. Peut-on jouir de la souffrance des autres ? La réponse est évidente.
C'est assez classique. Jusqu'à. En France, les exécutions capitales étaient.
Oui, publiques. Oui.
Moi, à cela, je répondrai à côté, comme souvent. Tu citais 1938. Il y a une autre époque et une question autrement plus grave. C'est bien d'emmener les Juifs à Babylone et d'en jouir. Mais est-ce que les SS jouissaient de l'extermination? Je pose cette question exprès. Est-ce qu'on n'est pas dans une... Enfin, on est dans un autre monde. Hein.
Ben, il y a un film dont j'ai entendu les commentaires sur Radio Notre-Dame.
La
zone réservée, c'est ça? Oui.
Moi, je voulais poser une question.
Je dis juste pour soutenir ma provocation. C'est-à-dire que ma provocation, c'est que jouir de la souffrance des autres, c'est encore assez sain. Il y a plus grave. C'est ça.
Plus grave,
il y a plus grave.
Plus grave, qu'est-ce qui est plus grave que de jouir de la souffrance?
Il y a plus grave, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les prisonniers ne sont pas conduits à Babylone, mais qu'ils sont conduits dans la chambre à gaz? Ça, du temps de Babylone, ça n'existait. C'est ça que je comprends. Oh, on est dans une autre époque.
Ils sont conduits à la mort, quoi, directement. Mmh.
C'est-à-dire
que. Je pose une question.
Oui, c'est un autre chose. Là, on est dans une perspective de guerre d'État à État, c'est-à-dire puissance contre puissance. Alors que l'allusion à laquelle que tu fais, c'était il y a des êtres qui n'ont pas le droit de vivre. Oui. C'est ça la différence.
C'est encore pire.
C'est ça la différence. Et c'est tout le problème de ce qui s'est passé à la conférence de Wannsee. Voilà. Et donc, on voit bien la différence de perspective. Là, on est dans une perspective politique, historique, normale, dans l'histoire de l'humanité, des guerres de puissance à puissance. Il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Et le vaincu part... prisonniers, déportés, et puis advienne que pourra. Dans l'histoire, comment ? Avec l'histoire de la torture aussi, mais alors que dans l'histoire des chambres à gaz, c'est il y a des êtres qui n'ont pas le droit de vivre. C'est ça la différence. Est-ce que c'est clair ? Bon. Geneviève.
Oui, c'était une question technique. Est-ce que Jérémie a été retrouvé dans les manuscrits de Qumran ?
Oui, absolument.
Dans la même forme ?
Oui. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous voulez, le problème, on a des manuscrits, un manuscrit hébreu. On a un manuscrit grec à partir duquel on a beaucoup travaillé, qui est ce manuscrit grec, est la traduction d'un texte hébreu qui aurait été perdu. Et un texte hébreu qui aurait été le premier texte, le texte le plus authentique. Et par conséquent, dans cette traduction de la Tobe, on utilise beaucoup des passages du grec que l'on a remis ensuite en hébreu, mais dont on se sert de l'interprétation du grec. Donc, il y a un problème de composition qui est extrêmement compliqué, et par conséquent, Thomas Romer, qui est un exégète bien connu, a dit qu'il y avait un groupe de fidèles qui, revenant d'exil, au moment vers 520 avant Jésus-Christ, ont essayé de mettre en commun leurs souvenirs pour essayer de reconstituer les paroles de Jérémie. Donc, nous avons un texte très différent de celui qu'on a étudié l'année dernière. Le discours, les discours de Job l'année dernière qu'on a étudié, c'était une œuvre littéraire qui avait été écrite, composée, construite. Là, ce sont des bribes d'intuitions spirituelles, de fruits de la prière, de la transmission, qui essayent de s'organiser comme elles peuvent. Et comme on garde tout, ça me fait toujours penser à la tante Hélène qui gardait les bouts de ficelle dans son coffre, ou presque, tellement c'était précieux à l'époque. Si vous voulez, on garde tout, tant pis si c'est hétéroclite. Mais les Hébreux qui, eux, liront le passage, ils sauront très bien à quoi ça se rapporte et ils comprendront très bien. Donc, si vous voulez, nous sommes renvoyés à un texte difficile, et c'est bien cela, tout l'effort que nous faisons, pour essayer d'entrer et de comprendre. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que nous avons, dans ces textes qui sont là, nous avons justement, en même temps, une transmission spirituelle, et puis en même temps, le problème, c'est de se garder, de vouloir reconstituer historiquement le texte, parce que ça, c'est un travail impossible. Mais effectivement, dans les manuscrits de Qumran qui ont été retrouvés, on a trouvé des fragments. On n'a pas un texte, les textes les plus anciens datent, les manuscrits les plus anciens datent du 2e et du 3e siècle. Auparavant, sont des petits bouts. Il y avait eu une exposition extraordinaire à la Bibliothèque nationale où on avait montré justement les manuscrits de Qumran d'une part, et puis surtout des bouts de phrases, des bouts de mots, et dont on avait reconstitué l'écriture. Alors ça, je me souviens d'un colloque... l'Institut de recherche et d'histoire des textes, on travaillait sur les écritures effacées. Et il y avait eu des représentants qui montraient tout le travail, mais vous, Geneviève, vous connaissez ça mieux que moi, sur la lecture des palimpsestes et les manuscrits effacés, dont on a effacé le texte et sur lesquels on a réécrit. Bon. Et du coup, on a palimpseste. Geneviève, je vous laisse le soin d'expliquer ce que c'est qu'un palimpseste.
On écrivait sur des peaux d'animal,
oui,
qui étaient chères et rares. Si bien que quand un texte ne paraissait plus très intéressant, on le grattait pour réécrire dessus. Alors malgré tout, on arrive à retrouver l'image du premier écrit avec des procédés tout à fait modernes, du laser, électronique, etc., etc. C'est ça qu'on appelle un palimpseste, c'est un manuscrit qui a été effacé et réécrit.
Ça s'écrit comment, palimpseste?
P-A-L-I-M-P-S-E-S-T-E.
J'ai vu récemment aussi dans les manuscrits de qui a été détruit par le Vésuve et qui sont brûlés et qui sont en train de les décoder.
Oui.
Oui,
oui,
ça,
oui.
C'est
oui.
Pas un palimpseste.
Non, ça c'est autre chose. Et alors, justement, nous verrons au chapitre 37 de Jérémie, nous verrons une scène absolument dramatique où nous verrons que Jérémie a essayé d'annoncer la parole, que c'est très mal, très, très, très mal reçu, donc on va l'arrêter. On va le... bon, et finalement, alors qu'il il essayait de communiquer ça à un petit groupe de fidèles, il est dénoncé, et par conséquent, ça va arriver jusqu'au Conseil des ministres. Et alors, on a une scène extraordinaire où on nous explique que finalement, bah, il faut quand même prévenir le roi de ce qui se dit. Et le roi, c'était au salon d'hiver, il y avait un salon d'hiver, et comme il faisait encore froid, il y avait un brasero et le roi se chauffait. Et le scribe qui est chargé de lire la parole, et la parole était à ce moment-là sur des rouleaux de papyrus, eh bien, le roi demande qu'on lui tende le rouleau, et avec son canif, il lacère le rouleau et il le jette au feu. Et on a une scène absolument bouleversante de premier auto da fé, c'est-à-dire acte de foi, dans lequel on brûle la parole de Dieu. C'est vous dire les problèmes de violence. Donc, à cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux outrages et aux sarcasmes. Et nous avons justement à ce moment-là cette image. La parole devient en moi comme un feu dévorant. Et nous avons cette expression du feu. Alors, je livre mes sources, hein, parce que ce n'est pas moi qui ai imaginé cela. Thomas Romer, qui est un des spécialistes de Jérémie, dit « Pourquoi est-ce qu'il parle du feu ? La parole devient en moi comme un feu dévorant. » Il dit « Voilà, c'est la preuve que ce texte a été écrit après l'exil, parce qu'il y a une influence perse à travers le culte de Mazda et à travers le Zoroastre. » Voilà, exactement. Donc, cette image du feu qui va devenir ensuite, qui va être répercutée aussi dans des psaumes qui sont écrits à peu près à la même époque, et cette image d'un feu dévorant. Et alors, Thomas Romer va jusqu'à dire, mais c'est là qu'il faut voir l'origine des langues de feu sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Alors, je vous livre mes sources, hein, c'est pas moi. Hein. Mais ce sont des autorités. ce sont des personnes qui font autorité. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que prisonnier, non pas de mon corps, comme c'est traduit ici, parce que c'est là où on voit que la traduction de la TOB, pour qu'elle soit plus compréhensible, essaye de montrer des images un peu cohérentes, mais c'est prisonnier de mes os. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que si mes os sont consumés, je ne peux plus me tenir debout, donc je ne peux plus exister. Donc c'est une image de mort. Et par conséquent, nous avons ce paradoxe que c'est à la fois la parole de Dieu, elle me fait vivre, mais elle est comme un feu qui peut s'attaquer à mes os. Et vous voyez ce paradoxe pour montrer la réalité infiniment complexe de la nature humaine. C'est pas tout bon, tout mauvais, c'est un espèce de mélange, alors que nous voudrions tellement que ce soit clair. Ben, c'est pas clair, justement. Et ça nous fait saisir, si vous voulez, la complexité de la nature humaine qui est tellement difficile, qui est tellement entremêlée. Et vous voyez, on voit cela, c'est en cela que Jérémie est très attachant, parce qu'on voit cela à travers des petits détails de vocabulaire. Et alors, nous avons cette image, ensuite, de dénoncer-le. Oui, nous le dénoncerons, et tous mes amis, tous mes amis guettent mes défaillances, et peut-être se laissera-t-il tromper dans sa naïveté et nous arriverons à nos fins et nous prendrons notre revanche. Et par conséquent, cette idée qui nous renvoie au psaume 31, au verset 14, il épouvante les alentours, il fait peur à tout le monde. Il fait peur dans la mesure où il annonce une catastrophe. Et par conséquent, c'est Cassandre, c'est ça ? Qui annonce des catastrophes et qu'on ne peut pas écouter. Ben voilà, vous voyez, cette comparaison avec Cassandre. Alors, chose aussi qui va nous surprendre, c'est que le Seigneur, au verset 11, le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Et par conséquent, le problème d'image, vous voyez, la violence du texte, l'image, toujours cette image de guerre. Le terme qui est employé, il y a deux mots, c'est l'image d'un homme costaud, très grand, il n'y a aucune allusion. Très costaud, très grand, très fort, et en même temps, un homme de guerre. Donc, et qui incarne la force et qui, évidemment, nous renvoie à une figure qui est la figure de Goliath. Vous voyez ? Et par conséquent, derrière cela, justement, est-ce que le vocabulaire biblique se sert de quantité d'images pour pouvoir essayer d'exprimer une réalité spirituelle qui est tellement difficile à cerner ? Et même mes persécuteurs trébucheront, donc tomberont, l'histoire des chutes, n'arriveront pas à leur fin, ils seront couverts de honte, déshonneur à jamais. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui examines, alors justement le juste, et qui vois, alors au verset 12, les sentiments et les pensées, en réalité, qui voit mes reins et mon cœur. C'est-à-dire, devant le Seigneur, lui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Avec cette idée, justement, et du coup, c'est entre tes mains que je remets ma cause. Et nous avons inspiré directement de ce texte-là, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand Jésus meurt sur la croix. Vous voyez les rapports qui ont été faits. Nous avons aussi ça dans un psaume. Entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, on se dit, bon, bah, c'est très bien, chanter au Seigneur, louer le Seigneur, il arrache la vie des pauvres au pouvoir des malfaiteurs. Par conséquent, c'est très bien. On se dit, bah, il a fait sa prière, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Sauf que, eh bien, la fin n'est pas du tout comme ça. Et nous allons retrouver à ce moment-là, dit de manière là encore extrêmement violente, nous allons retrouver le discours de Job l'année dernière, maudit le jour de maudire sa naissance. C'est les termes qui sont employés, c'est dire que l'on c'est vraiment le péché par excellence, parce que c'est rejeter la vie qui vient de Dieu, et donc c'est rejeter Dieu lui-même. Et par conséquent, maudit le jour où je fus enfanté, on a malédiction et enfanté. Et nous avons maintenant, vous avez l'habitude, dans le texte hébreu, de deux mots qui viennent s'entrechoquer pour pouvoir justement faire éclater un raisonnement qui serait trop bien construit, etc. Nous avons devant nous, justement, cette contradiction. Et le texte hébreu est très violent parce que nous avons le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni, maudit l'homme qui annonça à mon père un fils aîné. Alors effectivement, vous savez que l'accouchement se passe entre femmes et que, par exemple, nous avons Léa. Vous savez que Jacob avait deux épouses, il y en avait une qu'il aimait, c'était Rachel, parce qu'elle était très belle, et l'autre qui nous dit le texte biblique, qui avait le regard faible, autrement dit elle louchait, elle était beaucoup moins jolie, c'était Léa. Sauf que Léa, elle avait, tous les ans, elle mettait au monde un enfant, et que Rachel était stérile. Et Léa, des détails qui sont intéressants, c'est qu'elle accouche, et le père, qui normalement doit nommer, doit donner le prénom de l'enfant, le père était tellement qu'il n'était pas là. Et c'est un des rares exemples dans la Bible où c'est la mère qui donne à ses fils, qui donne le prénom. C'est l'exemple de Léa. Mais ici, nous avons justement ce détail. Maudit l'homme qui, maudit le messager qui annonça à mon père un fils aîné. Et ça nous renvoie justement à l'exemple de Zacharie, par exemple. Zacharie qui n'assiste pas à la naissance de Jean-Baptiste, mais qui, alors qu'il était muet, qu'il ne pouvait plus parler, il écrit sur une tablette « Son nom sera Jean ». Et c'est Zacharie qui désigne la manière dont son fils devait être appelé, alors que normalement il aurait dû avoir le nom du grand-père, etc. Et ici, il y a cette image, effectivement, du messager qui annonce au père la plus belle, plus belle nouvelle qui soit, un fils aîné. Et nous avons une allusion qui est tout à fait dramatique et qui dit que cet homme devienne pareil aux villes que le Seigneur a renversées, que cet homme qui a annoncé cette naissance ressemble à Sodome et Gomorrhe. Et par conséquent, nous avons une violence absolument épouvantable, et l'image de Sodome et Gomorrhe correspond à l'image du feu qui est dévorant à l'intérieur de moi. Donc vous voyez, nous avons ici tout un ensemble, et nous avons une image qui est terrible, avec que cet homme ressemble à Sodome et Gomorrhe, et lui, que ne m'a-t-il fait mourir dès le sein? Et là, nous avons deux mots qui viennent se heurter de la manière la plus forte, la plus crue. « Ma mère, ma tombe ». Vous voyez ? Et par conséquent, et le texte hébreu n'a pas besoin de verbe être à ce moment-là, il colle véritablement « ma mère, ma tombe », c'est-à-dire que deux mots qui viennent se fracasser l'un contre l'autre pour montrer l'indicible. Et par conséquent, ici, vous voyez, nous retrouvons la prière de Jérémie ose se terminer par ce problème devant lequel on bute. Pourquoi suis-je né maudit? Et avec cette idée de malédiction et de drame terrible. Alors, vous voyez que la complexité, comment est-ce que vous réagissez face à des textes qui sont aussi difficiles, aussi confus, aussi violents? Vous vous souvenez, monsieur, vous aviez assisté au cours sur Job au Bernard. Ben, vous voyez, on retrouve ici cette violence, et ce qui est très intéressant, d'où l'interaction aussi des influences culturelles entre le livre de Job et le livre de Jérémie, dont lequel a inspiré l'autre, point d'interrogation. Ce que nous recevons, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui sur notre vie spirituelle? C'est ça la question.
Quand j'entends ma mère, ma tombe, je suis dans la proposition, on va aller à Rome, et puis on va aller à Saint-Pierre, et puis on va se recueillir devant la crêta de Michel-Ange.
Ça, c'est une bonne idée.
Ma mère, ma tombe, vous voyez le lien?
Ben oui.
L'image du feu là qui est enfermé dans les eaux de Jérémie, oui, me fait penser à une parole brève de la Bible. Le zèle de ta maison me dévore.
Oui, c'était pour le temple, à propos du temple. Le zèle pour ta maison me dévorait, ce qui va être repris qui est une phrase du chapitre 7 de Jérémie, qui est repris par l'un des évangélistes pour l'entrée de Jésus à Jérusalem quand il chasse les marchands du temple.
Ce dernier passage, je trouve que ça renvoie, qu'est-ce que tu en penses à... C'est vraiment, ça vient au miroir de l'invocation de Jérémie.
Oui.
Chapitre 1, la vocation de Jérémie, avant que tu n'aies été conçu.
Oui, c'est ça.
Et là, quelle colère immense, hein. Il est mélancolique. Hein.
Ah, tout ce que... Oui, tout à fait. Tout à fait.
Plus que mélancolique. Hein.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est dépressif?
Ah, non.
Comme dit Isabelle, beaucoup plus. Oui. Mélancolique.
Oui, mais alors.
C'est poignant en ce moment.
Quelle est la différence? La mélancolie, pour moi, c'est la dame aux camélias. Alors, c'est, ça ne colle pas.
Non, justement, c'est beaucoup plus fort que ça, en fait.
Il est en colère.
Oui.
Il est désespéré, surtout.
Bah, oui, plutôt. La mélancolie, c'est...
Dans la mélancolie, on se laisse aller, quand même. Tandis que là, il est en colère, et ça le soutient, finalement. Je ne sais pas comment dire.
C'est possible.
C'est un moteur.
Oui, c'est ça. Merci.
À condition qu'il ne se suicide pas.
Oui, ben oui,
mais il ne va pas se suicider.
Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il ne va pas se suicider. Ça nous arrange.
Ça nous arrange.
Mais en fait, la vie, c'est aussi un peu ça. On peut, à des degrés divers, ça dépend des tempéraments, des caractères, tout ça, mais on passe quand même par des hauts et des bas, et quand ça ne va pas, on a tendance à se révolter quand même. Hein. Donc, après, ça passe, mais c'est vrai que c'est...
Mais on a le sentiment, à travers un texte comme celui-ci, d'un corps à corps avec Dieu. Parce que nous avons, dès le début, « Seigneur, tu as abusé, en fait, j'ai été trop naïf, tu as abusé de ma gentillesse, de ma bonne volonté. »
Oui, c'est injuste, en fait.
C'est pas juste. Et par conséquent, ce qui nous est renvoyé, c'est, et c'est en cela qu'on ne trouvera pas la même chose chez Ézéchiel, on n'a pas trouvé la même chose chez Jérémie, chez Isaïe, il y a 2 ans, on a ce cri de révolte qui est particulier à Jérémie, qui nous montre la manière la plus intime, le fond de sa prière, et qui ose le dire, c'est surtout ça, qui ose le dire.
Finalement, il est souvent en colère.
Oui, mais est-ce que c'est seulement de la colère?
C'est quoi?
La révolte, il ne se marre pas de la
rancœur. Oui, hein. Et c'est très humain, hein. Il n'y a que le Christ pour ne rien dire.
Vu ce qu'il vit, à part le Christ,
oui.
C'est quelqu'un de supporteur.
Alors, justement, est-ce que ce n'était pas ça l'intérêt?
Ça prouve qu'il est très vivant, en fait.
Oui, justement, c'est nous renvoyer en miroir la complexité de nos contradictions. C'est de nous faire toucher du doigt, l'intérêt de textes comme celui-ci, c'est de nous faire toucher du doigt tout cet enchevêtrement de liens qu'il est impossible de démêler.
Alors il est très proche de Dieu, comme tu dis, hein. Ils sont dans un corps à corps.
Oui.
Alors tu nous interroges, qu'est-ce que ça nous fait dans notre vie spirituelle?
Oui.
Alors, au jour d'aujourd'hui, ça nous fait quand même des choses bizarres. Toi qui aimes bien te référer à l'actualité, celui qui abuse, je le disais dans le journal tout à l'heure, c'est Benoît Jacquot.
Ah oui.
Qui viole et qui abuse.
Oui.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même très déroutant de lire dans la Bible Jérémie qui a affaire à un Benoît Jacquot, si je puis dire.
Oui.
Est-ce qu'on peut vivre ça dans notre vie spirituelle? Je ne sais pas. J'ai du mal. Hein, mais...
Il n'est pas mineur, Jérémie.
Dans le dialogue avec Dieu, Jérémie, il a un dialogue avec Dieu où Dieu abuse de lui et le viole. Et il nous parle de cela.
Enfin, c'est ce qu'il ressent.
Mais il est consentant, Jérémie. Oui. Il dit « Je me suis laissé séduire ».
Il était peut-être consentant au début, mais là, il regrette un peu d'avoir consenti. Hein.
C'est parce qu'il sent bien que c'est sa mission, quand même.
Oui, c'est vrai.
Il doit surmonter ce premier sentiment.
Ça prouve qu'on a des sentiments ambivalents.
Oui, exactement. C'est tout à fait ça. L'ambivalence de ce que nous sommes.
Mais ça, c'est assez intellectuel.
Il est excessif.
Que la langue est très crue.
Très crue.
Au début.
Oui.
Mais ce n'est pas seulement une question de langue. Enfin, oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être dans, c'est dans notre vie spirituelle, est-ce qu'on peut vivre quelque chose d'aussi cru? Alors, Rosemine dit oui, mais c'est ce qu'il croit. Enfin, c'est ce qu'il sent. Mais c'est ce qu'il raconte, qu'il vit.
Oui, parce qu'il y a, en plus, c'est ça l'intérêt de la langue hébraïque. C'est que nous avons été formés avec la langue latine, la langue grecque, avec une langue conceptuelle. Et dans les traductions qui ont été données ensuite, à partir du grec et à partir du latin, on a complètement évacué l'aspect charnel du corps. Et par conséquent, quand on nous dit, par exemple, que les larmes sont une forme de langage, que Dieu lui comprend, et que ce langage-là, il est nécessaire, alors que, moi, j'ai toujours été éduquée comme quoi il ne faut pas pleurer parce qu'il faut être maître de soi, et il faut se dominer, apprendre à se dominer. Et je trouve que le texte biblique nous renvoie la réalité vraie
de la vie,
de ce que nous voulons pas voir et de ce que nous voulons effacer derrière une bonne conscience.
Oui.
Finalement, le texte biblique brise les tabous de la bonne conscience, je crois.
Excepté que le texte hébreu est antérieur au texte grec et latin.
Non, c'est plus compliqué que ça, si tu veux. Dans les bouts qu'on a ramenés, on a essayé de faire un truc un peu cohérent. Donc on a pris tantôt du grec qui était fait sur un texte hébreu qu'on a perdu, tantôt de l'hébreu, etc., tantôt de ceci, et puis on essaye de faire... Mais justement, ce qui est intéressant dans ce que nous faisons, le travail que nous faisons, c'est qu'on fait une lecture continue. On ne prend pas des petits bouts. Le fait de faire une lecture continue fait qu'on se heurte constamment à des incohérences du texte. Et c'est ça, justement, tout l'intérêt de toute cette énergie que l'on met pour lire en continu un texte où on voit justement toutes les failles de l'édition, de la construction, de l'interprétation intellectuelle.
Finalement, c'est du chinois, quoi.
C'est de l'hébreu.
Non, c'est de l'hébreu. En fait, la relation de Jérémie à Dieu, c'est une relation d'amour. Et l'amour, c'est une dépossession.
Oui.
C'est assez ambivalent.
Oui.
C'est à la fois une bénédiction et une malédiction.
Oui.
Ça vous entraîne là où on ne voudrait pas aller.
Je crois.
Et apparemment, la sexualité s'en mêle beaucoup.
Non, s'en mêle beaucoup parce que la réalité, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, dans ce texte que j'ai lu plusieurs fois, dans cette dernière partie, justement, à propos de ma mère, là. Ma mère m'enfanta. Le terme du travail des contractions. Un fils t'aîné. Il y a toujours cette image physique, justement, de la naissance, de la mise au monde. Et la mise au monde qui est faite avec un organe féminin. Et ce terme qui désigne l'utérus, à partir de ce terme-là, on a le mot de la tendresse de Dieu. C'est-à-dire que l'organe qui donne la vie, qui permet à l'embryon de se développer, est l'image de la tendresse de Dieu. C'est ça ce qui est extraordinaire dans le vocabulaire hébraïque, c'est qu'à partir d'un organe, il y a une image qui développe le sens de la vie. Et je trouve que cette image, elle est absolument extraordinaire. Parce que l'embryon dans le sein de sa mère, il survit à travers tout, il vit à travers tout, et il est fait pour naître vivant, et c'est le don de Dieu. Avec cette image extraordinaire, qu'il est parfait dans le ventre de sa mère, parce qu'il a tout, et qu'il a la connaissance parfaite de la Torah. Et donc, c'est un être saint, S-A-I-N-T. Puis au moment où il va traverser pour vivre, pour venir au monde, il va oublier tout ce qu'il savait de la Torah. Et il va se retrouver comme un petit être auquel les parents devront tout transmettre. Et je trouve cette image très belle.
D'ailleurs, le texte de la Bible de Jérusalem dit « Ses entrailles soient en travail perpétuel ». Autrement dit, on n'est pas complètement accouché de Dieu.
Alors, effectivement, parce que ça nous renvoie au texte d'Isaïe, au chapitre 66 d'Isaïe, où il y a cette image que je trouve absolument extraordinaire, avec un enfantement en deux temps, que je trouve... où est-ce que c'est ? Voilà, au chapitre 66, au verset 8 dans Isaïe. Qui a jamais, même au verset 7, avant d'être en travail, donc avant que ne commencent les douleurs de l'accouchement, elle a enfanté. Avant que lui viennent les douleurs, elle s'est libérée d'un garçon. Ça nous renvoie au texte de l'Apocalypse, au chapitre 12 d'Apocalypse, de cette femme qui va mettre au monde un enfant, alors qu'il y a le dragon qui est prêt à dévorer. Donc évidemment, c'est une image vue dans une perspective chrétienne de la Vierge Marie. Qui a jamais entendu chose pareille? Qui a jamais vu semblable chose? Un pays est-il mis au monde en un seul jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois? Pour qu'à peine en travail, Sion ait enfanté tous ses fils. Autrement dit, on a deux accouchements. On a l'accouchement avant d'être en travail, elle s'est libérée d'un garçon. Donc on a une très belle image de la nativité. Et ensuite, un pays est-il mis au monde en un seul jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois? Puisqu'il y a tout ce travail de la vie éternelle et de la naissance de l'Église à travers les siècles. L'interprétation que... du chapitre 66 de Jérémie, et qui correspond à effectivement ce travail d'enfantement de l'Église. Isaïe,
c'est repris par saint Paul.
Oui.
C'est-à-dire que la nature est en perpétuel travail.
Oui, en perpétuel travail d'enfantement. Et bien, c'est exactement ça. Beau, non?
C'est très bon. C'est un programme.
On termine là-dessus?
Eh bien, si vous voulez. On prie, hein, toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.